Bon, ben j'espère que ça marche.
Allez. Alors, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, comme vous l'avez entendu dans ma présentation, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas médecin. Et je vais vous parler de psychose d'un point de vue qui est vraiment calculé pour vous provoquer et vous surprendre. C'est-à-dire en s'interrogeant sur ce que signifie la crise de la notion de psychose aujourd'hui dans la psychiatrie internationale, hein, qui repose sur une chose très simple, c'est que même aux États-Unis où le nom n'existe plus quasiment, même dans l'enseignement universitaire de la psychiatrie, il n'empêche qu'on utilise couramment dans les discussions de service psychotique, hein, pour psychotique, c'est un mot qui est passé dans le langage commun et les médecins ne se privent pas de l'utiliser, alors que les théories neuroscientifiques, la prise en charge sociale des malades mentaux, etc., n'utilisent pratiquement plus jamais la notion de psychose. Donc ça tend à disparaître, y compris en France. J'ai entendu des professeurs d'université dire que la psychose, ça n'existe pas. C'était une psychiatrie qui n'existe plus, qui utilise ce genre de choses, alors que dans la pratique clinique ordinaire, il est souvent extrêmement difficile de se passer de l'adjectif pour qualifier tel ou tel comportement, trouble ou parcours typique d'un individu dans sa vie. Et en français comme en anglais, on a été obligé de garder le mot de psychose, ne serait-ce que parce que pour dire fou ou délirant, ou parler spécifiquement de quelque chose qui est la rupture du rapport avec la réalité, hein, ce qu'on appellerait comme ça confusément, ils sortent de la réalité, on utilise ce mot de psychose. Et si la prochaine fois je vous parlerai de la psychose maniaco-dépressive, c'est que comme vous savez, le trouble bipolaire s'est trouvé disjoint, n'est-ce pas, par rapport à la n'est pas exactement l'héritier de la psychose maniaco-dépressive, puisque dans le trouble bipolaire, on considère qu'il n'y a qu'une forme, hein, de trouble bipolaire qui est à proprement parler psychotique, tandis que l'autre, il n'y aurait que des oscillations de l'humeur, de l'hypomanie, des choses de ce genre. Bon, les subdivisions entre les sortes de troubles bipolaires sont devenues presque difficile à maîtriser, même pour les professionnels. Mais en gros, c'était ça. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que quelqu'un qui a des oscillations de l'humeur extrêmement grandes, s'il ne délire pas à proprement parler, on ne va plus le juger psychotique. Tandis que dans la clinique allemande classique, d'abord, on considérait que ces troubles de l'humeur étaient toujours accompagnés de quelque chose de psychique qui avait un caractère qui était indubitablement psychotique pour les Allemands. Et pour les Français, d'ailleurs, également. Bon. Donc là, il y a eu, vous voyez, une sorte de transformation où on peut être bipolaire sans être psychotique. Vous auriez expliqué ça à un psychiatre allemand dans les années 30, ses cheveux se seraient dressés sur la tête, il aurait dit, mais vous êtes un clinicien complètement à côté de la plaque. Par définition, c'est de la psychose, une oscillation de ce qui se manifeste dans les oscillations de l'humeur. Un autre aspect qui est très important pour comprendre pourquoi la psychose s'estompe dans le paysage, c'est le problème de la paranoïa. C'est que, par exemple, on a fait venir un grand psychologue américain qui s'appelle Louis Sass dans notre service, qui assistait aux présentations de malades pendant toute une année. Louis Sass disait qu'il n'avait de sa vie jamais vu une paranoïa. Il était donc totalement stupéfait de nous voir examiner des patients d'une manière telle que la dimension paranoïaque apparaissait de façon extrêmement claire, parce que pour les Américains, dans le DSM, la paranoïa, encore dans le DSM-4, c'était une personnalité qui était paranoïaque. On avait une personnalité paranoïaque, méfiante, dans le préjudice, dans une sensibilité à fleur de peau, etc. Et en plus de cette personnalité, il avait un trouble délirant. Il était persécuté, il était interprétatif, etc. L'idée que la paranoïa soit en tant que telle une maladie mentale, hein, est quelque chose qui a complètement disparu. Il n'y a même pas d'index d'entrée. Il y a trouble délirant et personnalité paranoïaque, mais il n'y a pas de la paranoïa dans les grandes classifications psychiatriques internationales. Ce qui pose évidemment un problème, c'est que dans la culture psychiatrique classique, qu'elle soit française, allemande, la paranoïa, c'est tout à fait une entité bien distincte de la schizophrénie et bien distincte des troubles maniaco-dépressifs, qui a une consistance propre que, je pense, Madame Salvaresi a toujours appris. On discute avec les gens, d'une certaine manière, on les appelle des parrainés, on sait ce qui va se passer, et on a des manières de parler avec eux qui les saisissent et les attrapent dans la dimension même de leur paranoïa. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a des cultures scientifiques, modernes, contemporaines, des gens qui sont faits exactement comme nous, pour qui la paranoïa, ça n'existe pas. C'est-à-dire, soit c'est des gens qui ont une personnalité un peu paranoïaque, mais c'est pas, ils sont pas des malades, soit ce sont des gens qui ont un trouble délirant et ça relève plutôt de la schizophrénie. Bon. Alors, ça, c'est au niveau de la clinique, la crise de la notion de psychose. Parce que la paranoïa, c'est la psychose dans la tradition psychiatrique. Beaucoup plus que la schizophrénie. Beaucoup plus. L'idée, par exemple, que le président Schreber, toute la psychanalyse, toute la psychiatrie existentielle s'est construite autour de cette problématique de la paranoïa comme maladie. Si vous enlevez, si les gens ne la voient plus, il n'y a pas les moyens de la saisir, c'est la catégorie même de psychose qui entre en crise dans la psychiatrie. Pierre, dans le DSM-5, qui vient de sortir, et qui soulève toutes sortes de problèmes, du côté des neurosciences, la recherche s'est totalement déconnectée de la question de savoir s'il y a de la psychose ou de la névrose ou des choses comme ça. Bon, il n'y a pas plus d'ailleurs de... Par exemple, je vous donne un exemple qui est extrêmement sensible, les financements de la recherche en neurobiologie psychiatrique aujourd'hui, une partie va sur le thème qu'il y a des sortes de troubles qui sont communs à des maladies qui jusqu'ici étaient totalement opposées. Par exemple, l'anhédonie, l'incapacité à prendre du plaisir, un symptôme caractéristique des symptômes négatifs de la schizophrénie, par exemple, ils n'arrivent pas à goûter un plaisir, tout leur paraît essentiellement fade et lointain, est comparé à un phénomène comme anhédonique dans la dépression. Et on cherche quels seraient, on investit de l'argent pour élucider dans le cerveau, quels seraient les mécanismes qui privent les gens de la capacité à jouir de la vie dans la dépression et dans la schizophrénie. Alors, si vous réfléchissez 5 minutes, la dépression et la schizophrénie, c'est 2 entités cliniques que personne n'irait rapprocher en dehors de ça. D'un côté, vous avez une grande psychose avec des délires, des trucs dans le corps, une carrière très longue qui se chronicise, etc. De l'autre, vous avez des choses qui peuvent être effectivement des dépressions au très long cours, mais qui peuvent être aussi des épisodes relativement qu'on ne soigne pas ou qu'on soigne très peu, etc., et qui n'ont pas du tout la même qualité, etc. Or, voilà que maintenant, il n'y a plus aucune différence du moment que vous pouvez trouver une sorte de quelque chose de commun qui se passerait dans le cerveau. Alors ça liquide complètement l'idée qu'on pourrait se structurer l'esprit quand on discute ou qu'on examine les malades mentaux, qu'on pourrait se structurer l'esprit avec des grandes catégories comme psychotique, pas psychotique, plutôt dépressif, plutôt des troubles névrotiques, plutôt... Voilà, tout ça est complètement abrasé. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cette crise contemporaine de la psychose. Ce que je vais faire pendant les exposés, c'est pas tellement... Je vais vous raconter, au fond, comment j'essaie de construire une recherche à ce sujet. C'est pas tellement je peux vous faire un cours sur la psychose. Je vais vous raconter comment je vais chercher des documents, comment j'interroge éventuellement des gens ici à l'étranger sur comment ils perçoivent les choses, en essayant de comprendre, au fond, ce qui est en train de se passer autour de ça, et à quels éléments ça se rattache. Parce que beaucoup de gens vous expliquent que c'est le progrès de la science. Psychose, c'est juste une catégorie vétuste. Voilà. C'est comme les gens qui croyaient, je ne sais pas moi, aux sorcières, etc. On a dépassé tout ça, et maintenant on est dans la science. En réalité, je suis très sceptique sur cette explication, ce n'est pas le progrès de la science. Ne serait-ce que parce qu'en médecine, le progrès de la science, ça devrait normalement être accompagné d'un progrès thérapeutique. Or, il y a toujours autant de malades mentaux, et ce n'est pas parce que vous êtes passé aux neurosciences que vous savez mieux les soigner. C'est pas du tout... pas de gain. On change de langage, on change de scientificité, mais les hôpitaux ne se sont pas vidés depuis qu'on sait des choses sur le cerveau des psychotiques, des schizophrènes. Pas du tout. Non, ce qui est très intéressant et important de se rappeler... c'est que les catégories comme la psychose, la grande aliénation, ont un passé, une origine très forte dans la psychiatrie légale, dans la médecine légale, puisque il a toujours été extrêmement important de faire la distinction entre des gens qui étaient responsables de leurs actes, qui étaient conscients de ce qu'ils faisaient, etc., et puis des gens qui ne l'étaient pas. Bon. Et que une grande partie de la théorie des folies essentielles, de la mélancolie, de la paranoïa, etc., était toujours à l'ombre de cette question du tri à faire, ceux qu'il fallait interner pour les protéger de leur famille ou eux-mêmes, et puis ceux qu'on pouvait éventuellement laisser avec leur famille. Et que, comme on enlevait des droits aux gens, et qu'on les enlevait de manière extrêmement forte, hein, surtout quand c'était des familles aisées, des familles bourgeoises, où il y avait des questions d'héritage, des questions de gestion de fortune, etc., il fallait un encadrement légal extrêmement fort, qui a été construit au début du XIXe siècle, partout en Europe, en France en 1838, en Angleterre à peu près à la même époque, pour faire cette distinction. Et donc l'idée de psychose, de quelqu'un qui est vraiment en dehors de la réalité, il ne faut jamais perdre de vue que c'est toujours pour faire le tri entre celui qu'on va pouvoir interner et celui qu'on va pouvoir laisser soigner en attendant que ça se passe. Bien. Or, comme vous avez observé avec les dernières lois de santé mentale, etc., il y a de plus en plus de stades intermédiaires et de degrés intermédiaires entre les gens qui sont vraiment quasiment emprisonnés, comme dans les asiles du XIXe siècle, puis les gens qui sont complètement dehors. Il y a tout un gradient de contraintes, de soins sous contrainte, de soins sous contrainte à domicile, par exemple, ce qui est quelque chose qu'au XIXe siècle, jamais personne n'aurait imaginé. Si vous êtes chez vous, on ne vous soigne pas, c'est vous qui vous soignez. L'idée d'être soigné sous contrainte à domicile, hein, c'est une idée à nous, c'est une idée du XXe siècle, même du XXIe siècle. Bon. Il y a donc tout un degré de contrainte qui fait que on n'a pas besoin d'aller à la hache, à séparer d'un côté les psychotiques en dehors de la réalité et de l'autre ceux qui ne le seraient pas. D'autre part, la psychiatrie, depuis sa naissance, court après sa légitimité dans le champ de la médecine. Puisque c'est quand même le lieu où on n'arrive pas à soigner les gens. C'est quand même un endroit où on ne sait absolument rien sur l'éthiopathogénie des maladies mentales, n'est-ce pas ? Et plus on fait d'études sur le cerveau, moins on comprend pourquoi un tel est schizophrène, manifeste tel type de symptômes et a tel... Alors que, vous voyez, les cancérologues, les cardiologues, etc., semblent, eux, jouir d'une sorte de progrès scientifique et médical qui est absolument majeur. Mais le fait que la psychiatrie se soit de médicaliser sur un modèle neuroscientifique, aujourd'hui très très fortement neuroscientifique, remonte à l'idée, à ce choix fondamental qui a été fait de dire que les affections mentales, c'est des maladies mentales. De considérer qu'on a affaire non pas à de la folie, un problème moral, mais un problème médical. Ce qui remonte assez tard, hein, juste la deuxième moitié du XIXe siècle, pas avant. Et devant les protestations des gens, parce que l'antipsychiatrie, ce n'est pas d'aujourd'hui. L'antipsychiatrie, ça a commencé dès 1820. Il y avait des chansons sur Pinel en 1820. Les hôpitaux psychiatriques, on appelait ça des pinellières. Donc on a les textes des chansons. Il y a des gens qui disaient, non mais c'est quoi ces gens qui veulent nous boucler, qui veulent nous enfermer dans les asiles, etc. Enfin, l'antipsychiatrie a toujours exercé une très très forte pression sur la psychiatrie. Les gens, les médecins ont toujours voulu renforcer la crédibilité de la psychiatrie en médecine. Alors quels sont les moyens d'établir cette crédibilité de la psychiatrie en médecine ? Alors, le premier, c'est le monopole du traitement pharmacologique. Il n'y a que les psychiatres qui ont le droit de donner des médicaments. Chaque fois qu'il est question que les psychologues puissent donner des médicaments, alors que tout le monde sait que c'est totalement facile, ça ne pose aucun problème, c'est la levée de bouclier, l'Académie de médecine tire à vue, écrit au gouvernement, jamais les psychologues n'auront le droit de prescrire des médicaments, il faut être médecin. Alors qu'on sait très bien que c'est extrêmement facile, en réalité, en suivant des protocoles, de prescrire des... Et dans certains pays du monde, déjà, les psychologues ont le droit de prescrire. La deuxième chose pour protéger cela, ça a été le diplôme spécialisé. Il faut être plus qu'un simple médecin pour être psychiatre. Il faut être un médecin spécialisé. La troisième chose, très, et ça c'est vraiment un truc complètement central, hein. On ne sait pas très bien en quoi ils sont spécialisés, les psychiatres, puisqu'ils ne savent pas quelles sont les causes des maladies mentales. Ce n'est pas comme les cancérologues, ils ne savent pas. Ils sont juste habilités à s'en occuper. Mais à proprement parler, ils ne savent pas, comme on sait en cancérologie ou en cardiologie, ce que c'est qu'une maladie mentale et pourquoi elle produit spécifiquement ces effets-là. Il y a des choses plus modernes qui ont tenté de rapprocher la psychiatrie du côté, lui donner ce crédit médical. C'est par exemple la référence à la génétique médicale. Là encore, personne ne sait au juste quelle est la fonction, la part génétique des maladies mentales. Pour vous donner un truc, quand vous voyez dans les articles de scientifiques ou parfois dans la presse, on a découvert un gène voilà, qui est lésé pour les autistes, les schizophrènes, etc., qui manquait, etc. Si on faisait un test pour trier les gens à partir de cette différence génétique, on prendrait leur génome, on examinerait le test, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, il y aurait entre 99 et 99,9% de faux positifs. Quand vous faites la conversion statistique de ce qui est statistiquement significatif, on a découvert un truc, voilà, il y a un gène chez les autistes. Si on utilisait ce gène pour faire le tri en population générale, il y aurait entre 99 et 99,9% de faux positifs de gens dont on se tromperait sur ça. Donc c'est vous donner la fragilité des choses. Et l'autre argument qui est constamment utilisé, pour dire qu'il y a une origine génétique des maladies mentales, notamment avec les troubles bipolaires, par exemple, c'est qu'il y a une différence entre les jumeaux monozygotes et les jumeaux dizygotes. On peut montrer, par exemple, dans la schizophrénie, quand les jumeaux sont monozygotes, il y en a 6 sur 10 qui sont schizophrènes. Quand les jumeaux sont dizygotes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas exactement le même patrimoine génétique, il y a eu deux œufs qui se sont formés, et même si les enfants sont nés au même moment, et ont été élevés par la même famille, ça tombe à quelque chose comme 35 ou 40, ça dépend. Donc il y a une différence. Comme il y a une différence qui a l'air uniquement liée à la gémellité, on dit qu'il y a un facteur génétique. Personne ne sait pourquoi il y a des jumeaux dizygotes, monozygote dont un est schizophrène et l'autre pas du tout. Personne ne sait. Mais il y en a 6 sur 10. Voyez. Donc ce sont des arguments négatifs. Il doit bien y avoir quelque chose de génétique, regardez les jumeaux. Maintenant, personne n'a la moindre idée de la raison pour laquelle tel gène bidule produirait tel type de développement du cerveau et qui produirait tel type de symptômes, etc. Personne n'a la moindre idée. On ne sait rien de ça. Donc, et puis l'autre exemple qui est très frappant, que vous avez dû voir dans les journaux, pour médicaliser ces choses-là, c'est l'imagerie. On monte des cerveaux, voilà. On monte des photos de cerveau, dans lesquelles, alors d'un côté, vous avez le contrôle normal, et puis de l'autre, avec du rouge et du vert qui s'allument partout dans le cerveau, le dépressif, le schizophrène, le maniaco-dépressif, tout ce que vous voulez. Bon. Alors, c'est tout à fait fascinant, puisqu'en fait, personne ne sait pourquoi ça s'allume dans le cerveau, à cet endroit-là. On sait juste que ça s'allume dans le cerveau. Mais si vous réfléchissez 5 minutes, mettre une image, c'est juste ajouter un signe en plus. C'est-à-dire que c'est un signe clinique en plus. Ça n'explique pas pourquoi les gens sont malades. C'est juste un signe supplémentaire du fait qu'ils sont malades. C'est-à-dire qu'ils ont des crises d'humeur, ils délirent quand ils sont excités, ils ont de l'insomnie, ils sont hyper excités sexuellement, et c'est un signe de plus, et ils ont ça et ça dans le cerveau. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont ça et ça dans le cerveau qu'ils sont expliqués. Vous voyez. Donc on utilise une image qui, après tout, n'est qu'un signe supplémentaire qu'on a découvert, qui est objectivé dans le cerveau, comme si c'était l'explication et la preuve que c'est cérébral. Bon, oui, le cerveau est impliqué. Mais après tout, on pourrait dire que le fait de pas dormir, par exemple, les symptômes sont du même rang, c'est des signes du même genre. En tout cas, le succès du paradigme de la maladie mentale a progressivement changé, l'idée que pour distinguer la psychose de ce qui n'était pas la psychose, il suffisait de se demander si les gens étaient encore maîtres d'eux-mêmes, responsables de leurs actes, capables d'écrire des testaments, de prendre des décisions, de se marier, etc., qui était la question de départ. En médicalisant les choses, on a comme ça progressivement commencé, tout doucement, à dire que la psychose n'avait plus besoin d'être quelque chose de rigide, parce qu'en médecine, rien n'est rigide. Le principe même d'une maladie mentale ou pas, c'est qu'elle a des degrés, des formes, des cours qui évoluent différemment selon les individus, elle est beaucoup plus souple que cette espèce de truc à la hache où on allait séparer la psychose, hop, à l'asile, plus aucun droit, et puis les autres. Alors, on s'est évidemment aperçu aussi que la question se posait essentiellement pour les gens qui avaient des biens, de l'argent au 19e siècle. Alors, mon problème, que je vais essayer de construire devant vous cette année pour vous raconter un peu comment on fait pour faire de la recherche dans mon domaine, c'est mon problème, c'est ce problème lui-même. C'est-à-dire, c'est que je vais m'écarter pour vous le raconter. Je vais plus parler de psychose du tout. Je vais vous parler notamment des bouquins que j'ai fait circuler et de l'ensemble du type de problème que nous on se pose devant cette situation contemporaine de la psychiatrie. C'est une question de sociologie et d'anthropologie. C'est une question de se demander dans quel genre de société on vit, quel genre de rapport on entretient avec les uns avec les autres, pour qu'une catégorie comme celle de psychose, par exemple, puisse entrer dans une forme de déclin, du côté de la science pure, on en parle beaucoup moins, tout en restant très vivante dans la pratique clinique. Très, très vivante. Il n'y a aucun doute. Quand vous avez un bipolaire devant vous, vous vous intéressez à la question de savoir s'il est délire ou pas, s'il y a du délire ou pas. Si c'est pas un mot employé au hasard, de dire qu'il y a une dimension psychotique ou pas. Un dépressif qui présente une mélancolie, c'est une question même clinique de savoir s'il a des antidépresseurs ou des antidélirants, enfin des antipsychotiques. S'il est mélancolique, la tradition voulait qu'on mette d'abord quelque chose pour attaquer le délire plutôt que pour attaquer l'humeur. Bon, c'était, je ne sais pas si ça existe toujours, mais enfin ça restait un principe pratique extrêmement fort dans la prise en charge de ce qu'on appelait des mélancolies. Y a même une inquiétude, c'est qu'il faut faire très attention à ne pas déclencher une manie, comme vous l'avez certainement vu, en donnant un antidépresseur à quelqu'un dont on a mal diagnostiqué que la dépression était en fait la phase basse d'un cycle dans une psychose maniaco-dépressive. Il est dépressif, on lui donne gentiment un antidépresseur, et très peu de temps après, et pas avec des doses nécessairement colossales, on se retrouve avec quelqu'un qui ne dort plus, qui chante toute la journée, qui fait un épisode maniaque caractérisé. Et quand vous avez vu le dépressif, c'est la première fois que vous le voyez, il n'a pas forcément un dossier bien épais, bien malin, qui pourrait dire « Ah oui, mais il y a des critères scientifiques pour savoir que ça, c'est une dépression unipolaire. » Et non, pas une... non, dans les faits, on y va quand même un peu au flair. C'est pas si clair que ça. Alors, ce que je veux dire sur ça, c'est que ça suppose probablement le déclin de la catégorie de psychose, des modifications subtiles de la manière dont nous percevons les uns les autres, dont nous nous tolérons ou ne nous tolérons pas les uns les autres. Ça suppose des perceptions très particulières de ce qu'on trouve une tristesse normale, à partir de quand on trouve que quelqu'un, c'est normal qu'il soit triste, jusqu'à quel point on supporte qu'il soit excité, jaloux, méfiant, interprétatif, etc. Un exemple très simple que vous connaissez tous, vous voyez arriver quelqu'un qui est complètement, mais maboule, quoi. On va dire, comment la famille a-t-elle pu supporter ça? Vous voyez la famille? Vous apercevez que le gars, il est comme ça depuis 5 ans, et que la famille, oui, elle le trouve bizarre, elle le trouve... mais elle ne réagit pas dans la famille, alors que vous le voyez sorti de son contexte, etc. Elle ne réagit absolument pas avec l'inquiétude et le souci clinique immédiat. Que oui. Et donc, les modalités, évidemment, d'insertion d'un délire ou d'une grande psychose à l'intérieur de son contexte immédiat varient considérablement. Et sont très probablement liés à ce qu'une famille peut supporter ou pas, non seulement en fonction de son environnement culturel,
mais par exemple de ses moyens socio-économiques, de sa religion, du fait que de toute façon, je voyais par exemple l'exemple des communautés juives ultra-orthodoxes dans le 19e, hein, où la moitié des familles sont sous soliant, etc. Hein, c'est complètement ahurissant ce que ces familles extrêmement pauvres, qui vivent dans des conditions souvent avec très 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 peu d'argent, supportent comme délire, caractérisé dans leurs milieux familiaux. Parce que quand vous recevez, Rémy Gourmont par exemple, pour parler de Maison Blanche, tel ou tel membre de ces communautés juives traditionnelles et très, très orthodoxes, il ne fait aucun doute pour l'infirmière de première année qu'elle a affaire à un très grand fou qui se soigne d'urgence. Or ces gens vivent là, comme ça, dans un univers où apparemment... Alors ça, je crois que c'est très intéressant, c'est d'essayer d'identifier comment... Les attentes que nous avons à l'égard de la normalité, de l'humeur, de la façon de penser, d'agir, de pratiquer la religion, etc., peuvent être fondamentalement variables. Et à grande échelle, ça suppose des transformations dans les attentes que nous avons les uns à l'égard des autres, et notamment autour de quelque chose de très très important dans les sociétés individualistes contemporaines, et qui est l'autonomie. Je crois que la grande hypothèse que nous faisons, avec un certain nombre de mes collègues et moi, avec Alain Ehrenberg, c'est un nom que vous connaissez, qui travaille avec moi, avec qui je travaille, hein, c'est plutôt dans cet ordre-là, que les choses se passent, et quelques autres dans mon groupe, n'est-ce pas, c'est que nous pensons que l'idéal d'autonomie et d'autonomisation, ce qu'on veut pour nos enfants, c'est qu'ils soient autonomes. Ce qu'on veut pour les vieux, c'est qu'ils soient autonomes. Ce qu'on veut pour les... Oui, absolument, ils peuvent crever de tristesse dans leur appartement du moment qu'ils ont leur allocation d'autonomie, qu'il y a une caisse... L'autonomie est un principe de politique publique, n'est-ce pas ? L'éducation à l'école, la façon dont on parle aux petits, le but, c'est qu'ils soient autonomes. La pire chose qui puisse arriver, c'est d'être handicapé. Encore là, vous avez droit à compensation. Mais ça peut être d'être assisté. On déploie des politiques pour que le bien public, le bien social dans les sociétés individualistes, c'est l'autonomie. Et l'autonomie, c'est une autonomie, on n'a pas besoin de vous donner des ordres. C'est par vous-même que vous faites les choses. C'est par vous-même que vous prenez la décision d'aller vous former, de venir au boulot, de gérer vos propres stress, etc., sans demander à personne. Vous voyez, c'est ça l'autonomie. Moyennant quoi, ça change considérablement les rapports entre les hommes et les femmes, les fonctionnements des démocraties, etc. La valeur d'autonomie est une valeur totalement structurante dans le domaine politique, celui de la santé publique, celui, etc., qui organise les choses. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que celui qui va être vraiment malade, et malade mental, c'est celui dont l'autonomie va être attaquée. C'est pas comme au 19e siècle, le malade mental psychotique, c'est celui qui n'est pas, qui est dangereux simplement pour autrui ou qui n'est pas capable des actes civils, de se marier, de gérer sa fortune ou la fortune de sa famille, etc. Non, c'est quelque chose de différent pour nous. C'est l'autonomie. Et le contraire de l'autonomie, c'est le handicap. C'est pas la maladie. Et c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles de plus en plus de malades, autrefois considérés comme mentaux, ne veulent plus être traités comme des malades psychiatriques. C'est totalement évident avec l'autisme, par exemple. L'idée de l'autisme, c'est sorti des maladies mentales, c'est juste un défaut d'autonomie, un handicap qui doit être compensé. De la même manière, par exemple, il y a tout un mouvement pour redécrire les maladies mentales de la psychiatrie comme des formes de handicap psychique. La catégorie de handicap psychique va de plus en plus réguler les allocations de fonds à un service comme ici, etc. Qu'est-ce que vous faites pour le handicap psychique ? Les associations de parents redéfinissent, de parents et de malades qui sont en état, redéfinissent beaucoup de choses en termes de handicap, parce qu'au fond, quelle est la valeur qui est mise en danger par la folie, la psychose ? C'est l'autonomie. Notre totem, en quelque sorte, notre dieu moral, c'est l'autonomie dans les sociétés individualistes. Et donc, à partir de... Alors, il y a différentes sortes d'autonomie. Parce que vous imaginez bien que ce n'est pas la même chose d'être autonome dans un pays comme le nôtre, où il y a un État puissant, centralisé, un système de santé publique, etc., un régime républicain, jacobin, avec... Hein, c'est pas du tout la même chose. Et quand vous êtes aux États-Unis, où, comme on dit toujours, n'est-ce pas, le gouvernement, l'État, n'est jamais la solution. C'est toujours le problème. Government is not the solution, it's the problem, comme disait Reagan. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'être libre et tranquille? C'est quand l'État ne vous fait pas payer trop d'impôts et que, surtout, il vous laisse le plus tranquille possible. On ne demande rien à l'État. Tandis que nous attendons, au contraire, des services publics, on attend d'en avoir pour nos impôts, en quelque sorte. On attend que les hôpitaux, qu'on soit pris en charge, que la sécurité sociale, vous ne pouvez pas toucher à la sécurité sociale. Vous parlez de sécurité sociale aux Américains, ça leur paraît, c'est comme si on était en Union soviétique ou chez les nazis, quoi. C'est vraiment un truc, comment est-ce qu'on peut supporter la sécurité sociale, voilà. Donc là, l'autonomie, c'est pas la même chose pour tout le monde. Néanmoins, il y a cette idée, hein, que c'est la valeur intouchable. Ce qu'il faut préserver et rétablir, c'est l'autonomie. À un tel point, je vais vous donner un exemple de nos travaux avec, hein, on est à Sainte-Anne, sur un programme de remédiation cognitive et de réhabilitation dans le service de Marie-Odile Krebs, dans lequel j'ai entendu un psychiatre dire « Mais nos malades, ils sont toujours aussi schizophrènes avant et après dans le programme. Mais alors, ils sont redevenus autonomes. » C'est-à-dire que le travail du psychiatre n'est plus de soigner la schizophrénie en tant que maladie mentale, c'est de restituer à des individus qui restent malades mais qui sont juste stabilisés une autonomie qu'ils n'avaient pas. Par exemple, pouvoir à nouveau habiter chez eux, pouvoir travailler, etc. Ils pensent toujours que Dieu lui parle, etc. Non, ça n'a pas changé. Mais au lieu d'être un légume tournant en rond dans son service, il fait du sport, il a retourné sa famille, il est redevenu autonome et il ne pèse plus sur la collectivité ni sur sa famille, où il pèse beaucoup, beaucoup moins. Donc vous voyez que ça peut aller extrêmement loin. Par exemple, c'est la mise au service de théories neuroscientifiques extrêmement sophistiquées, non pas pour soigner la schizophrénie, mais pour remédier à toutes les choses qui empêchent les gens d'être autonomes. Ils n'arrivent pas à se rappeler d'une liste de courses, ils se repèrent mal dans l'espace, ils n'arrivent pas à retrouver leur chemin, ils oublient ce qu'on leur a dit. Alors, on leur fait des exercices qui ne sont pas du tout des psychothérapies, qui sont des sortes de thérapies cognitives, dont le but n'est pas d'attaquer la maladie mentale à proprement parler, mais de soigner la schizophrénie, comme dans le paradigme de la psychothérapie ou de la psychanalyse. Non! Juste de les équiper à nouveau du moyen d'être autonomes. Alors ça, avant 10 ans, c'est ce que vous ferez tous. Vous ferez tous, parce que la pression sociale, scientifique, politique, financière, pour que justement l'accent bascule du côté de la prise en charge de l'autonomie est fondamentale. Et ça met donc radicalement en cause la question de la psychose. C'est-à-dire que il y a psychisme, on fait des hypothèses sur ce que les gens ont dans la tête, ce qui leur est arrivé quand ils sont petits, ils ont eu un accident de poussette, voilà, un truc très grave, et donc ils ont fait des maladies mentales après. Non, tout ça, complètement mis à la poubelle. Le poids d'un idéal social normatif comme l'autonomie est absolument considérable. Et il est absolument général, parce qu'il entraîne, comme vous savez, la gestion des retraites, la gestion de l'école, la question de la santé. C'est pas quelque chose où le système de santé peut être une sorte d'isolat en disant « mais nous on a des maladies, c'est spécifique ». On s'en fiche complètement de ce que racontent les médecins. À l'école, le but c'est d'autonomiser les gens. Dans l'entreprise, le but c'est que chacun se contrôle lui-même, se fixe lui-même ses objectifs, contrôle ses objectifs, se considère lui-même comme un centre de... soit entrepreneur de lui-même. Dans tous les domaines de la vie sociale, la norme d'autonomisation devient absolument fondamentale. Et donc les politiques publiques sont orientées là-dessus. C'est dans ce contexte, si vous voulez, de l'émergence, hein, je ne parle toujours pas de psychose, mais c'est pour vous indiquer un peu ce que c'est que le travail que je fais, de comprendre dans quel contexte nos représentations changent et on va s'occuper autrement des malades. Alors par exemple, le personnel infirmier va être de plus en plus formé à justement faciliter l'autonomie des malades.
de plus en plus dans les enseignements donnés en première année, etc., que ce soit la psychiatrie, l'oncologie, les vieillards, etc., les Alzheimer, etc., la question du soin et du maintien de l'autonomie va prendre une part de plus en plus considérable. Et la part des médecins à proprement parler, c'est-à-dire de ceux qui soignent la maladie dans son épisode de crise, va être réduite. Ne serait-ce que pour des raisons de coût. On ne paye pas les médecins comme on paye les infirmières. C'est plus rapide de former des infirmières que de former des médecins. Et que d'autre part, ce que les gens demandent, ce n'est pas que les gens soient vraiment guéris d'une maladie psychotique. C'est juste qu'ils puissent aller au boulot, vivre chez eux, pas faire chier le voisinage, etc., etc. S'il y a tout un système d'accompagnement, visite à domicile, soins, groupe de parole, etc., qui peut être obtenu en répondant à cette demande-là, ça va complètement modifier l'économie du système de santé. C'est absolument patent, par exemple, pour tout ce qui est Alzheimer, maladie de la mémoire, etc., et c'est vraiment universel. Alors, je ne vais pas plus loin, je reviendrai là-dessus. Je voudrais revenir sur la notion de dépression, qui est celle sur laquelle, avec Alain Ehrenberg, a énormément travaillé, et sur laquelle, moi, je me suis beaucoup penché aussi. La dépression, qu'est-ce que c'est? Ça a longtemps été considéré comme une maladie mentale. La dépression, la façon dont nous l'abordons comme un idiome de détresse. Un idiome de détresse, expression un peu amusante comme ça que je vous propose, qui a été proposée par un anthropologue dans les années 80. Un idiome de détresse, c'est comment il faut que vous parliez aux gens pour qu'ils s'aperçoivent que vous allez mal et que vraiment il faut faire quelque chose pour vous. Si vous dites à votre généraliste « Oh, je suis mélancolique », le généraliste veut dire « Ah, oh, c'est bien triste, vous savez, vous arrivez des choses, etc. Bon, allez, au revoir monsieur, à la prochaine fois. » Si au XVIIe siècle, vous aviez dit à un médecin « Je suis mélancolique », alors là, il aurait pris ça extrêmement au sérieux. Il a donné de l'opium, il vous a renvoyé en temps. Si vous dites à votre médecin « Je suis neurasthénique », ah, vous êtes bien fatigué, vous voyez, on a de la neurasthénie, on est un peu fatigué. Bon. Et si vous étiez en 1900, neurasthénie, c'est le langage dans lequel la plainte aurait été entendue. Aujourd'hui, si vous voulez être entendu comme allant mal, il faut dire « je suis déprimé ». Ah, vous êtes déprimé, qu'est-ce qui vous arrive? On va vous donner des antidépresseurs, etc. La manière de faire entendre qu'on va change avec le temps. En 1900, il fallait dire « je suis neurasthénique ». Il fallait être essentiellement fatigué. C'était la fatigue qui impressionnait les gens. Aujourd'hui, c'est la tristesse qui interpelle. En 1900, c'était la fatigue. Au XVIIe siècle, c'était une sorte d'humeur très particulière qui est difficile à décrire, dans ce qu'on appelle la mélancolie, mais qui était déjà, qui avait des traits de folie. Ça ressemblait à une sorte d'excès passionnel qui était complètement bizarre. Ça, c'était reconnu et entendu comme une maladie. Au point que, je ne sais pas comment qui vous envoie vos patients, mais nous, on est à Villévrard, un des grands tuyaux d'arrivée des malades, c'est l'hôpital Henri Grégoire à Montreuil, dans notre service. Même les internes notent patient dépression +++. Et puis, on ne sait plus ce que c'est. Parce que le patient dépressif +++ qui nous arrive... Alors, ça peut être effectivement une jeune fille qui s'est suicidée avec les antidépresseurs de sa mère ou qui a tenté de se suicider avec les antidépresseurs de sa mère parce qu'elle s'est fait plaquer par son copain, une alcoolique en rechute, un schizophrène un peu hébété, chronique, qu'on connaît bien, un maniaco-dépressif en phase basse, mais simplement, même les internes, enfin, j'exagère un peu, mais enfin, beaucoup d'internes, ils entendent « je suis dépressif », comme l'appel au secours, et il note la chose comme ça. L'idiome de détresse, c'est d'être dépressif. Combien de nos malades nous disent oh, « qu'est-ce que je suis dépressif pour dire « je vais mal » ?» Alors que ce qui se passe éventuellement, c'est vraiment qu'ils ont des voix, ou bien qu'ils ont des trucs dans le corps qui les persécutent. Le langage dans lequel nous exprimons nos détresses, qu'on soit malade ou pas,
qu'on était viré, jeté par sa copine, ou qu'on ait une maladie somatique qui nous abat, etc. Le langage, c'est le langage de la dépression. Et c'est pour ça que c'est un idiome de détresse. Si vous voulez être entendu, il faut vous présenter comme triste, abattu. Ça, c'est entendu. Si vous vous présentez juste comme fatigué, par exemple, vous risquez d'être traité comme un paresseux ou quelqu'un qui devrait faire de l'exercice, etc. Tandis qu'au XIXe siècle, ça aurait été entendu comme quelque chose... Ah, vous êtes très fatigué, c'est une neurasthénie, arrêt complet. On vous a mangé des bouillies avec du sucre, des pains de viande, enfin, etc. Avec l'idée qu'il fallait rectifier vos humeurs. Et il y avait des tas de gens qui étaient très malades, certainement au sens psychiatrique, mais des tas de gens qui étaient juste des épuisés de la vie. Et donc, vous voyez, les manières dont nous exprimons le malaise sont socialement normées. Et il ne peut pas y en avoir beaucoup. Il peut y avoir que quelques idiomes de détresse, puisqu'ils doivent être reconnus par tout le monde. Je vais vous en donner un autre exemple, c'est « je suis traumatisé ». L'idiome de détresse du traumatisme a très peu de rapport avec le grand stress post-traumatique de la guerre ou des accidents de voiture ou des choses comme ça. Le traumatisme, par exemple, dans l'Empire du traumatisme, deux sociologues, Éric Fassin et Richard Reichmann, racontent comment à Toulouse, l'explosion de AZF, par exemple, a, entre guillemets, traumatisé une ville entière. C'est que les gens parlaient du traumatisme. Des gens qui avaient des flashs, des réminiscences, des flashs, des insomnies, des cauchemars, des sudations, enfin, toute la suite des signes cliniques du traumatisme, il n'y en avait pas beaucoup. Étrangement, d'ailleurs, AZF a explosé en face de l'asile psychiatrique de la ville. Personne ne s'est posé la question de savoir si les malades mentaux étaient traumatisés. Tout le monde à Toulouse a été traumatisé, sauf les malades de l'asile psychiatrique qui habitent juste en face de l'usine AZF qui a explosé. Ceux-là, c'est des fous, hein. Donc ils peuvent pas leur arriver pire. On peut être traumatisé. C'est là où on voit très bien que le traumatisme, c'est quelque chose qui n'arrive qu'aux gens normaux. Si vous êtes un malade mental, personne ne va s'interroger sur ce qui vous est arrivé. Ce qui est quand même absolument sidérant, si vous réfléchissez. C'est pour ça que c'est un idiome de détresse, il est arrivé un malheur. Un autre très important, c'est l'addiction. Je suis addict. C'est pour ça que ce n'est pas parce que vous avez les circuits de la récompense dans le cerveau qui sont emballés. Être addict comme idiome de détresse, vous voyez, c'est... Et on peut être Alors avant, c'était le toxique, l'héroïne, éventuellement l'alcool. Maintenant, ça peut être le jeu, Internet... le sexe, etc., etc. Et alors, on est très content parce qu'on passe les gens à l'imagerie cérébrale et on montre, ah mais vous voyez, hein, les gens qui sont addicts aux jeux en ligne, au poker en ligne sur Internet, ils ont exactement le même trouble des circuits de la récompense dans le circuit thalamique-hypothalamique que les gens qui sont complètement accros au cannabis ou bien à l'héroïne ou à la cocaïne. Voyez, et on dit, c'est la preuve qu'ils sont addicts. En réalité, qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle l'addiction ? C'est une définition morale. C'est des gens qui sont dépendants. Être dépendant, c'est un des autres contraires de l'autonomie. Pourquoi ça pose un problème ? C'est qu'ils ne sont plus autonomes, ils sont dépendants de quelque chose. Ce qu'on soigne, ce n'est pas les circuits dans leur cerveau. Ce n'est pas la maladie d'être addict. Ce qu'on soigne, c'est une perte d'autonomie. Ils ne peuvent plus se passer de tel ou tel objet. Ils ne peuvent plus se passer de coucher, de jouer au poker en ligne, de leur drogue, de leur boisson, de je ne sais pas quoi, de leur téléphone portable, etc. On peut fabriquer autant d'addictions qu'on veut. Ça veut juste dire que les gens ne sont plus complètement autonomes. Et ce qui me paraît complètement fondamental dans tous ces idiomes de détresse, comme le traumatisme, la dépression, etc., c'est que vous voyez que ce sont des idiomes de détresse qui prennent en charge les malaises de l'autonomie. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est dépressif ? C'est pas quelqu'un qui est triste, etc. De plus en plus, on va considérer que c'est quelqu'un qui a du mal à commencer ses actions, qui a du mal à gérer son quotidien, qui a du mal à... C'est très rigolo quand vous lisez les descriptions, n'est-ce pas ? Quand on interroge les signes cliniques. Le matin, vous arrivez à commencer votre journée ? Vous arrivez à vous lever ? Vous voyez ? Est-ce que vous arrivez à initier une action par vous-même ? Ou est-ce qu'il faut que votre femme vous tire du plumard pour vous amener dans la salle, faire votre café le matin ? Et là, le monsieur va dire, oui, non, je n'y arrive pas, il faut que ma femme me lève, j'ai envie de rester au lit, je n'arrive pas à commencer la journée. Et en fait, ce qu'il décrit là, c'est une perte d'autonomie. Il n'arrive pas à commencer par lui-même
à vivre ses actions, etc. Bon. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant, parce que même les neurosciences, qui donnent l'impression d'être hyper objectives, etc., ne font que chercher les corrélats cérébraux de cette perte d'autonomie qui est en réalité un idéal social. Un idéal social, être autonome, et qui est un idéal social qui s'impose à chacun d'entre nous. J'ai consacré un énorme travail, par exemple, ces dernières années, aux TOC. Les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, qui ont pris la relève de la névrose obsessionnelle classique. Bon, c'est un des trucs fondamentaux avec les TOC, c'est le sentiment de contrainte. C'est l'auto-contrainte. Les troubles obsessionnels compulsifs ne sont absolument rien d'autre aujourd'hui que les troubles de l'autonomie. Parce que réfléchissez bien à une chose. Pour être autonome, il faut que personne ne vous dise ce que vous devez faire. Vous devez vous le dire à vous-même. Vous êtes venu ce matin sans que personne ne vous oblige. Vous êtes venu parce que le dressage scolaire, les habitudes de se contrôler soi-même, de dominer ses envies personnelles, ses pulsions, etc., sont tellement profondément inculquées en nous depuis l'enfance que nous sommes autonomes parce que nous nous auto-contrôlons. Et nous nous auto-contrôlons sans infliger aucune violence à autrui. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette chose, moi ça me fascine avec mes gosses, mais c'est un truc très complètement extraordinaire. On ne peut pas, ou on peut de moins en moins dire à des enfants « fais ce que je te dis ». La seule chose qu'on peut faire, c'est donner en exemple à ses enfants le fait que soi-même on se force à faire les choses. Ah oui, tu vas, mais moi, tu vas à l'école, mais moi je vais au boulot. Je prends sur moi, prends sur toi. C'est beaucoup moins quelque chose de l'ordre de la contrainte, comme dans les formes d'éducation traditionnelles, où on oblige les gens sous la menace ou par la force à faire ce qu'ils veulent dire, qu'en leur donnant l'exemple, comme adulte, du fait qu'on gère notre propre vie. Gère ta propre vie, toi aussi. Ce qui fait qu'on tolère plus de choses chez les adolescents, par exemple. Mais à condition que les adolescents vous donnent des gages qui gèrent leur propre vie, qu'ils assument leur responsabilité. Et on ne peut pas le leur imposer, ce serait contraire à l'idéal d'autonomie. La seule chose qu'on peut faire, c'est leur donner l'exemple de notre autonomie et du prix que nous payons pour notre autonomie, en termes d'autocontrainte, pour qu'eux fassent comme nous. Ce qui fait qu'il est totalement normal que les TOC explosent. Parce que qu'est-ce que c'est les TOC ? Les TOC, c'est l'obligation de faire un certain nombre de choses de manière ritualisée, obligatoire. C'est l'autocontrainte déchaînée. C'est l'envers de l'autonomie, la face noire de l'autonomie, mais déchaînée. Il faut que je fasse les choses dans cet ordre. Il faut que j'y aille absolument. Faut que vous voyez, dans une ambiance d'angoisse, de culpabilité, de honte intense, plus on demande aux gens d'être autonomes, plus vous créez l'obligation ou pour les gens de s'auto-contraindre, et plus la possibilité d'avoir des TOC est considérable. C'est plus la phase des troubles obsessionnels des petits-enfants qui est essentielle dans leur développement, où ils s'obligent à ritualiser, etc. Mais non, c'est toute la vie. C'est toute la vie que nous nous obligeons à ritualiser un certain nombre de choses. Et on imagine bien, vous voyez, que les TOC puissent se diffuser de cette manière-là. Je simplifie en avançant un petit peu. Voilà ce que c'est qu'une approche anthropologique et sociologique des maladies mentales. Ça ne consiste pas du tout à dire que les gens ne sont pas malades. Ils sont réellement malades. Ils souffrent réellement, ce n'est pas des illusions qu'ils ont. Mais la manière dont ils souffrent est entièrement dépendante des idéaux sociaux, des catégories à l'intérieur eux-mêmes se pensent, hein, de la façon dont ils se projettent, et qu'il y a une manière d'être dépressif aujourd'hui, une manière d'être toqué, une manière d'être addict ou traumatisé, qui est entièrement dépendante des idéaux sociaux qui fonctionnent aujourd'hui, et notamment de cet idéal de l'autonomie. Et donc, une fois que vous avez cet horizon-là, que vous pensez ça en termes d'idiome de détresse, vous pouvez vraiment vous poser la question de savoir à partir de quel moment on va médicaliser ou psychiatriser telle et telle personne. À partir de quel moment une personnalité un peu rigide, très consciencieuse, qui s'applique énormément, etc., va devenir une personnalité obsessionnelle, voire une névrose ou un toc, à partir de quel moment? Parce qu'au fond, le toqué, c'est la personne parfaite. Je veux dire, s'il n'y avait pas d'obsessionnel, il n'y aurait pas de bureaucratie, il n'y aurait rien. Il y a quantité de choses qui marchent à la conscience morale, à la culpabilité, à la faute, qui sont absolument essentielles à la vie sociale. C'est donc, vous voyez, quelque chose d'extrêmement problématique de dire que les gens sont juste des obsessionnels. On a besoin des obsessionnels, on a besoin des gens qui savent compter, qui refont les additions trois fois. C'est pas un truc en l'air. Et la question qui nous a beaucoup intéressé avec Alain Ehrenberg et d'autres, c'est que de ce point de vue-là, la question des idiomes de détresse, la question de la santé mentale, est devenu un enjeu absolument central de la vie des sociétés contemporaines, hein, puisque c'est là où se définit le bien-être et le mal-être de chacun d'entre nous, en termes de santé mentale, plus qu'en termes, par exemple, de liberté politique concrète ou de spiritualité. Alors, vous voyez que ce que je vais vous proposer de faire, c'est quelque chose que j'ai jamais trop osé faire jusqu'ici, c'est m'avancer vers un terrain beaucoup plus mouvant. Si on parle des gens qui disent qu'ils sont traumatisés, bon, certains sont traumatisés, les addicts, on n'y croit qu'à moitié, vous voyez que les gens peuvent être addicts au sexe. Parce qu'on voit très très bien que l'effet normatif que ça pourrait avoir, si vous commencez à avoir plus de rapports sexuels ou plus de besoins sexuels que la moyenne de la population, est-ce que ça fait de vous essentiellement un malade ? On voit bien que les pays où ces choses-là se développent, c'est des pays de forte culture protestante, par exemple le sud des États-Unis, dans lequel il y a des gens qui mélangent les psychothérapies, la prière à l'église, etc., pour être soulagés de l'envie d'avoir des rapports sexuels ou de consommer de la pornographie. Ça va être difficile d'amener en France l'idée qu'il y a des addicts sexuels, quoi. Ou en tout cas que, vous voyez, 10% de la population a besoin d'un traitement. Très compliqué de dire. Ça l'est moins dans d'autres parties du monde, en fonction de... Mais, donc là, on est d'accord. Mais ce que je vais faire, c'est avec la psychose, et je vais commencer par la psychose maniaco-dépressive, c'est que je vais essayer de vous raconter pourquoi même la psychose maniaco-dépressive, ça peut être, dans un certain nombre de cas, un idiome de détresse, ou un idiome de succès. Une manière de dire... Au fond, c'est ce que vous avez tous vu si vous avez vu un maniaque en crise. Le maniaque en crise, c'est pas lui qui est malade, c'est vous. C'est vous qui êtes un peu molle, un peu ralenti, là, comme ça, un peu... écoutez, rendez-vous compte, le mouvement du monde, tout ça, ça bouge autour de... Et dire, c'était comment soigner un maniaque? Je veux dire, le maniaque, c'est lui qui vous soignerait, hein, tellement... Ces choses-là, alors évidemment, dans une culture psychiatrique assez classique comme celle qu'on a en France, ça n'impressionne pas grand monde. Encore que, aux États-Unis, ça impressionne beaucoup de monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont notoirement maniaques, mais qui ont fait des fortunes colossales, qui sont des grands artistes, dans show business, etc. Voilà. Il y a une idée qu'être maniaque... c'est être dans le mouvement des choses, c'est véritablement jouir des objets de consommation, de l'argent, de tout ce qui circule, la quantité. Ça peut figurer comme un idéal. C'est précisément dans ce type de culture que la psychose maniaco-dépressive, qui était un grand malheur dans la psychiatrie européenne, un grand malheur. Parce que les schizophrènes, les psychiatres allemands du 19e siècle, c'est tous des tarés, ils n'en ont rien à faire. Mais les psychoses maniaco-dépressives, c'est des gens remarquables. Ils les plaignent. Ils les plaignent. Ils se disent, oh, voilà, c'est un type qui a du talent, etc. Et puis alors, tous les six mois, il est à ramasser la petite cuillère ou bien il est à mettre sous camisole. Vous voyez ? Mais ils les plaignent. Tandis qu'aux États-Unis, quelque chose de la... chez les gens qui ont inventé le trouble bipolaire, et qui ensuite l'ont mondialisé, le trouble bipolaire, c'est compliqué, parce que, évidemment, il y a des grands fous psychotiques, mais le trouble bipolaire, c'est enviable. C'est enviable. C'est une condition. Si vous ne l'êtes pas trop, c'est génial. Il ne faut l'être pas trop. Et même les malades absorbent cette idée, avec les médicaments. Que être bipolaire, c'est être en syntonie, en harmonie, avec un certain nombre d'idéaux sociaux. Et donc, je vais me risquer à m'interroger sur le fait, à les sortir, vous voyez, de ces maladies de masse, comme la dépression, le discours du traumatisme, qui sont comme idiome de tresse, pour avancer plutôt du côté de la psychose. La démarche que je vais suivre, c'est une démarche qui est comparative. C'est-à-dire, pour bien voir les reliefs qu'il y a entre ce que c'est qu'être dépressif, mélancolique, maniaque, on ne peut pas se contenter de voir regarder ce qui se passe chez nous. Il faut faire varier l'environnement des idéaux sociaux, des idéaux moraux, des conditions socio-économiques, pour voir comment cette condition varie et comment elle est plus ou moins acceptée, tolérée, ou au contraire stigmatisée, et on met les gens à l'asile beaucoup plus rapidement dans tel pays que dans tel autre. On en sort certains de l'hôpital plus rapidement que tel autre dans d'autres pays. Et pour ça, la seule manière de vous faire sentir ce que c'est que ces choses-là, c'est de parler de gens qui ont l'air de nous ressembler beaucoup. Les Américains, les Japonais, etc. J'ai pas besoin d'aller faire de l'ethnopsychiatrie, vous voyez, en allant faire de l'ethnopsychiatrie avec des pays du tiers-monde ou des situations extrêmement lointaines, etc. L'ethnopsychiatrie, elle commence à la maison. On va faire de l'ethnopsychiatrie française. On va essayer de voir comment on fait nous pour juger qu'un tel, vraiment, ça va pas, là, il va falloir augmenter la dose de médicaments parce que là, il se paie. Et c'est très souvent quelque chose qui va nous révéler comment nous considérons que la tâche du clinicien, c'est de resocialiser quelqu'un, la société dans laquelle il vit, c'est-à-dire de le mettre au bon niveau d'autonomie que nous cherchons à atteindre. C'est pour ça que je vous ai fait passer le livre de Junko, parce que Junko, qui est une anthropologue, qui est une jeune anthropologue, elle a juste 40 ans, a passé un temps fou comme ça, au moment où vous savez que les entreprises japonaises, les cadres des entreprises japonaises ont des journées de travail qui peuvent être éventuellement phénoménales, ce qui aboutit à des accidents cardiaques et à des suicides. Ça s'appelle karoshi, c'est la mort par surtravail. Les gens travaillent, une fois que vous avez travaillé plusieurs fois 20 heures par jour pendant plusieurs mois, évidemment les gens font des effondrements. Alors quand ce n'est pas des arrêts cardiaques sur le lieu de travail, ou des accidents vasculaires cérébraux, c'est par manque de sommeil, épuisement, etc., stress, angoisse, ça peut être des graves décompensations dépressives. Et les entreprises japonaises ont été progressivement condamnées. C'était un moment très important dans l'histoire japonaise, parce qu'au début, on disait, les gens qui tombent malades du travail, comme tous les cadres travaillent 20 heures par jour, s'il y en a un qui fait un accident, c'est parce qu'il est prédisposé. C'est biologique. Hein? Ou alors, c'est que c'est juste un taré. Un type qui n'a pas le niveau. Un pauvre type. Mais l'entreprise n'est pas responsable. Et pendant très longtemps, les entreprises ont refusé d'accepter leur responsabilité dans les maladies somatiques et mentales des cadres qui étaient épuisés par le travail. Jusqu'à ce qu'il y ait une grande affaire où la Cour suprême du Japon a condamné le plus grand publicitaire japonais, Dentsu, qui est un peu le Havas, si vous voulez, du Japon. Dentsu a été condamné à une amende colossale, à des dommages et intérêts, parce que la preuve avait été faite que le jeune gars qui venait de se suicider avait été exposé à des charges de travail et de responsabilité absolument énormes. Et depuis, toute la psychiatrie du travail japonaise a assimilé la notion de dépression pour travailler là-dedans. Je vous invite beaucoup à travailler sur ce point, parce que pour les Japonais, ça a été une révolution culturelle. C'est pour ça que j'ai appelé le livre de Junko « De la mort volontaire au suicide au travail ». C'est qu'on leur a expliqué que le suicide pouvait être une maladie. Or, dans la culture japonaise, le suicide n'est pas une maladie. Ça ne peut jamais être considéré comme une maladie. C'est un acte de liberté qui ennoblit celui qui l'accomplit. C'est le fameux harakiri des samouraïs ou des choses comme ça, mais qui est quelque chose de tout à fait présent dans la culture ordinaire. Expliquer à des Japonais que se suicider, ça peut être une maladie, c'est quelque chose de révolutionnaire. Vous voyez, c'est un choc qui implique de recomposer comment les gens se sont appropriés la notion de dépression suicidaire, par exemple. Comment on a utilisé ça pour créer une, pour empêcher les entreprises de pressurer jusqu'au dernier degré les cadres, les médecins, hein, parce que les médecins eux-mêmes, c'est ce qui est absurde. Les médecins qui s'occupent dans les hôpitaux psychiatriques des dépressifs pour surtravail, c'est des médecins qui travaillent 18 heures par jour. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes pressurés par l'institution de cette façon-là. Donc ils comprennent, c'est-à-dire, ils comprennent les hommes, fait remarquer Junko. En revanche, qu'une femme puisse être dépressive, une femme qui ne travaille pas 18 heures par jour. Deuxième révolution invraisemblable. La dépression, ça touche aussi les femmes. Non, mais c'est complètement... Non, les femmes, c'est des névrosés. Neuroso, comme on dit en japonais. C'est-à-dire, vous reconnaissez, c'est un mot importé. C'est névrose, neuroso. Les femmes, c'est pas dépressif. C'est juste des névroses. Il suffit que leur mari s'occupe d'elles et qu'on les mette en vacances. Ça suffit comme ça. Les seuls qui sont vraiment malades, c'est les hommes. Découvrir que les femmes puissent être dépressives, c'était une révolution incroyable. Alors, découvrir qu'en plus, elles peuvent être aussi dépressives que les hommes, qu'il y en a 50% des femmes, il a fallu transformer les outils épidémiologiques au Japon pour recueillir le fait que les femmes puissent être dépressives. Donc, vous voyez, les inégalités hommes-femmes devant la maladie mentale sont fondamentalement articulées à cette question du genre. Et à la question de la reconnaissance. Et pourquoi les Japonais sont-ils tombés malades? Parce que le cadre japonais, c'est un cadre qui est de plus en plus obligé, qui tombe malade, parce que justement c'est une exigence d'autonomie absolue qui lui est faite. C'est lui qui doit s'obliger lui-même à remplir les objectifs qu'on lui a fixés. Un certain nombre d'ailleurs des dépressions que vous verrez, certaines sont en fait des mélancolies, c'est des gens qui décompensent. C'est des décompensations mélancoliques. Jusqu'ici, ils avaient l'air de gentils obsessionnels qui faisaient bien le boulot, qui étaient calmes, obéissants, consciencieux, etc. Et puis on a appuyé un peu trop fort sur le citron, et ils ont décompensé dans une mélancolie. Bon. D'autres, c'est des gens qui sont des grands obsessionnels, et puis qui un jour ont été incapables de satisfaire la contrainte qui s'imposait eux-mêmes. Et que donc, c'est pas une mélancolie dans laquelle ils s'effondrent, c'est une crise de honte et d'impuissance comme celle que vous avez chez les très grands obsessionnels qui, à force de privation, de sacrifice, ont toujours réussi à tenir le coup dans leur job, puis tout d'un coup, ça s'écroule. Un peu comme dans un de mes livres, le cas que j'ai très très longuement décrit, le cas de M. Paramore, qui est un patient que j'ai eu pendant de nombreuses années en cure chez moi, et qui était un patient qui travaillait dans le milieu médico-sanitaire, jusqu'à ce que, un jour, on a eu la très mauvaise idée d'organiser des audits réciproques entre les services. C'est-à-dire que son service devait auditer un autre service, puis ensuite c'était le service du voisin qui venait l'auditer pour améliorer les choses. Le type, il faisait parfaitement bien son boulot. Il s'est retrouvé à se dire « mais je ne le ferai jamais assez bien quand je vais me faire auditer ». Et lui-même était terrifié à l'idée d'auditer les autres et de découvrir qu'il ne faisait pas aussi bien les choses que lui. Il a fallu 15 jours pour transformer cet homme qui était un célibataire, qui ne bougeait pas, etc., qui faisait parfaitement son boulot et sa carrière, en une loque qu'il a fallu mettre en invalidité au bout d'un certain temps. Et il était évidemment incapable de dire ce qui n'allait pas bien, puisque comment quelqu'un qui est consciencieux peut dire le fait de ne pas réussir à faire son travail, c'est une maladie? Alors il est allé voir le médecin du travail dans un accès de obsessionnel, d'auto-accusation, de déni de sa maladie. Le médecin du travail, il dit « je suis un peu fatigué ». Le médecin du travail, écoutez, arrêtez-vous quelques jours. Le médecin à aucun moment n'a perçu qu'il avait affaire à un effondrement gravissime chez un très grand obsédé. Frisant la mélancolie, d'ailleurs, hein, c'est une question qui se pose. Et évidemment, il est sorti de chez le médecin, c'est complètement effondré. Donc ça, ce sont, je crois, des maladies qui se caractérisent très bien par aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire, en vous ayant apporté ces différents documents, c'est que je vais essayer la prochaine fois de m'interroger sur quelque chose qui pourtant a l'air d'être vraiment psychiatrique. Pas la dépression, le trauma, etc. La psychose maniaco-dépressive et les troubles bipolaires. Je vais essayer de vous montrer la prochaine fois combien l'invention du trouble bipolaire et sa mondialisation est un phénomène qui est un phénomène social, qui est un phénomène social. qui est un phénomène qu'il faut comprendre à partir des nouvelles attentes. Je ne dis pas que c'est une idéologie américaine qui vient s'imposer, pas du tout. C'est pas du relativisme au sens où on pourrait dire ça existe chez eux, ça n'existe pas chez nous, donc c'est pas une vraie maladie. Ça existe tout à fait, des gens qui font des crises de manie, de dépression, etc. Sauf que la façon dont c'est inséré dans la vie sociale des gens, dans leur vie culturelle, dans leur religion, dans leur rapport à autrui, à eux-mêmes, est absolument essentiel pour comprendre pourquoi ça prend, pourquoi la catégorie de bipolarité est devenue quelque chose qui devient presque enviable aux États-Unis. I'm proud to be bipolar. J'avais un t-shirt comme ça. C'est des trucs qu'on... Tiens, les gens disent, voilà, c'est une sorte de truc très protestant, comme ça, de révélation, de... Voilà, il faut que je vous dise quelque chose, je suis bipolaire. Ça a des conséquences sur les enfants, par exemple. Maintenant, un enfant qui a des sautes d'humeur ne serait-il pas bipolaire? Ne pourrait-on pas lui donner des médicaments? Voilà. Etc. Et en même temps, comment s'occuper vraiment des gens qui sont très très malades, qui font des crises de manie, etc., en leur donnant des médicaments, quel type de médicaments, etc. Donc je ne veux pas faire de relativisme antipsychiatrique, pas du tout. Je crois que ce sont des choses qui existent vraiment. Il faut des hôpitaux, des médecins, des infirmiers pour s'occuper des gens. Ce qui est essentiel, c'est de prendre conscience d'une toute autre dimension que celle qui est celle de l'enseignement ordinaire de la psychiatrie, qui est de type neurobiologique, épidémiologique, médicaments, etc. C'est de comprendre quel bien on peut vouloir aux gens, quel bien ils peuvent se vouloir eux-mêmes, qu'est-ce que c'est que pour eux aller mal, à partir de quand ils définissent des seuils morbides où ils disent non, là, il faut que j'aille à l'hôpital ou pas, et d'essayer d'identifier, en précisant par comparaison, ce que c'est que ce rapport à l'autonomie qui joue un rôle absolument central dans leur vie. Et donc, je ne sais pas, il n'y a pas d'interne, alors, donc en fait, elle n'est pas venue ici.
Il y a deux internes.
Voilà, c'est quelque chose que je fais. Bon, j'ai fait beaucoup ça pour les internes à Paris, et je le fais également un peu en province. Et pour donner envie, en fait, de donner à penser la psychiatrie dans un autre registre que celui dont on a l'habitude, qui est... tout à fait autre chose que la tentation, vous voyez, de ne voir de progrès en psychiatrie que dans l'idée d'une médecine scientifique et neuroscientifique, d'une part, ou aussi la croyance que si on ajoutait une sorte de détache psychanalytique à la psychiatrie, on la rendrait plus humaine, plus etc. Parce que, certainement, et je parlerai de psychanalyse, ces choses-là sont tout à fait importantes, mais ce qui est important aussi, c'est de comprendre dans quel cadre la pratique psychiatrique peut se situer. C'est-à-dire comment elle va être perçue par des gens dans le cadre d'une politique de santé, comment les associations de malades vont se développer, comment même le statut de quelque chose comme le délire va probablement changer très grandement dans les années qui viennent. Je terminerai sur les mouvements des entendeurs de voix, par exemple. Les entendeurs de voix, c'est les hallucinés, qui en ont marre de se faire traiter comme des hallucinés. Ils ont envie de se réapproprier l'expérience d'entendre des voix comme une expérience légitime, quelque chose qui leur arrive et pour lequel éventuellement ils peuvent avoir recours de temps en temps à un médecin, mais à condition qu'on n'attaque pas leur autonomie, leur style de vie, etc. Ou comme par exemple certains autistes de haut niveau qui en ont marre d'être considérés comme des dégénérés, des malades, et qui revendiquent le fait qu'il y ait un style cognitif différent. Et qui plaide pour la neurodiversité. En disant, ça suffit comme ça, on fait bien des rampes d'accès pour les fauteuils roulants dans les bâtiments publics, pourquoi on ne nous permet pas d'apprendre à lire, à écrire et à compter, à parler et à bouger de la manière qui nous va? Pourquoi on ne respecterait pas notre diversité au lieu de traiter... de nous traiter comme des Asperger, des autistes de haut niveau, qui sont bien à plaindre, qui sont des graves handicapés et qu'on devrait soigner. Donc des gens qui, au nom d'un idéal d'autonomie, se réapproprient des conditions qui sont, pour la psychiatrie traditionnelle, gravement pathologiques, parce que vraiment, l'hallucination acoustico-verbale, pour le psychiatre, c'est quand même le symptôme que ça va très très mal, quoi. C'est vraiment que les gens ont besoin d'aide. Voilà des gens qui tout d'un coup disent « mais votre aide, on n'en veut pas du tout, on peut se débrouiller ». Et par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vais aller le chercher sur YouTube. Il y a des gens qui enregistrent, qui essaient de montrer ce que c'est que d'entendre des voix. Et qui font donc des montages sonores pour expliquer, pour faire sentir à des gens qui n'ont jamais entendu de voix ce que c'est qu'entendre des voix. Écoutez sur YouTube ce que c'est que l'expérience d'entendre, d'avoir des hallucinations acoustico-verbales. Donc ils discutent entre eux. Ah oui, moi c'est exactement ça. Ah moi j'entends des voix. Alors donc, c'est souvent effectivement ce que les patients nous décrivent, des sifflements, des bruits, etc., une sensibilité à l'environnement, des voix. Mais c'est pas vrai du tout que c'est constamment salope, vache, putain. C'est pas toujours des insultes. C'est une sorte de. C'est totalement flippant hein, quand vous écoutez ça sur YouTube. Et quand les gens vous disent oui, c'est exactement ça, mon expérience d'entendre des voix en continu, je vis continuellement là-dedans. Effectivement, vous comprenez que des gens puissent avoir envie de s'approprier cette expérience sur un autre mode que de se remettre à des psychiatres qui vont leur donner des médicaments pour la diminuer. De toute façon, nous savons très bien que nous abrasons un peu les voix, enfin que les malades continuent à se plaindre. Que c'est... Bon, quand on a des voix, ça c'est pas vrai qu'on les guérit, les gens de leur voix, puis on ne guérit pas les schizophrènes. Bon. Enfin, on leur enlève pas leur schizophrénie, plus exactement. Donc pourquoi pas ? Donc je terminerai sur cette question, et à quel point des idéaux d'autonomie pour des autistes ou pour des psychotiques gravement malades avec des grandes hallucinations peuvent changer le profil de la maladie pour des raisons sociales, mobiliser les patients de manière associative, les faire revendiquer d'être des interlocuteurs des médecins, chose que j'ai vue par exemple moi avec les transsexuels pendant très longtemps, etc. Et que pour penser ça, il faut prendre la psychiatrie comme, je dirais, rendre à la psychiatrie sa place dans la description de l'expérience humaine au sens fort. Hein. C'est-à-dire, il faut remettre, et c'est le projet que je propose toujours aux psychiatres que je vais voir, il faut remettre la psychiatrie au niveau intellectuel, à la hauteur des enjeux qu'elle manipule et qu'elle brasse. Hein. C'est-à-dire que c'est pas juste une pauvre médecine qui n'arrive pas à soigner les fous. C'est que ce qui est en jeu dans les transformations de l'expérience des psychiatres et des malades, des soignants qui ne sont plus seulement les psychiatres, il y a de plus en plus des infirmiers, des assistantes sociales, comme on dit toujours, service de psychiatrie où l'assistante sociale est tombée malade, c'est la catastrophe. La moitié d'un service de psychiatrie, c'est l'assistante sociale. Puisque nous sommes dans des systèmes où il faut réautonomiser les gens. S'il n'y a plus personne pour faire le boulot de la paperasse, du chômage, du domicile, etc., comment on fait ? Vous voyez ? Donc en réalité, c'est tout un ensemble du dispositif de soins qui évolue sans que les gens s'en rendent compte autour de transformations de ce type-là. Vous voyez ? Le care chez les infirmiers, les assistantes sociales, les nouvelles manières de prescrire des psychotropes, les changements qui affectent les enjeux d'une psychothérapie. Psychothérapie, psychanalyse ou psychothérapie cognitive, mais cognitive, c'est de moins en moins pour soigner les dysfonctions des malades mentaux, les thérapies cognitives. Leur grand succès est lié au fait que les thérapies cognitives, ça vous rend plus autonome. Vous êtes toujours aussi malade qu'avant, mais vous êtes plus autonome. Et ce n'est pas le même type d'autonomie que celle que promet la psychanalyse, par exemple. La psychanalyse promet un autre genre d'autonomie, qui est en concurrence. Il peut y avoir plusieurs autonomies concurrentes. Ce que veut l'assistante sociale peut être en contradiction avec ce que veut le chef de service. Ça peut parce que ce n'est pas forcément le même type d'autonomie. Et que ce que légalement chacun est obligé de vous voir en fonction de sa position peut produire des conflits qui sont très intéressants. Et pour lesquels il n'y a pas de solutions qui sont écrites dans les livres, et qui se négocient comme ça. Alors ça, pour penser ces choses-là, pour penser la psychiatrie, il faut lui restituer ces dimensions comparatives, voir comment les autres font à l'étranger, dans d'autres contextes, et c'est un peu ce que je me propose de faire sur la psychose, sur cette question de la psychose, de manière exploratoire. Voilà, c'est à dire.